Vous écoutez
RMC.
Mais tout de suite, vous êtes sur RMC, les midi une. C'est l'heure des infos avec Jamila Zeghoudi. Bonjour Jamila.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Les orages très localisés, parfois très violents, ont fait une victime hier soir. Une femme de 57 ans est décédée à Courmel dans l'Aisne. Elle a été emportée après que sa maison ait été éventrée par une coulée de boue. La façade arrachée cette nuit. Son mari est également blessé. Le maire de la commune, qui est aussi un ami du couple, est sous le choc.
Une habitation qui a été... Qui a été plus que lourdement touché, puisqu'aujourd'hui la façade a complètement disparu. Voilà, deux personnes à l'intérieur, le monsieur, la dame, des gens proches, enfin je veux dire, symboliquement mon deuxième mariage, des gens que je connais depuis 50 ans. Le monsieur blessé, on arrive à le mettre un petit peu à l'abri, et puis la dame qu'on ne retrouve pas dans un premier temps, puis après là, tombe la mauvaise nouvelle, on retrouve le corps sans vie. Je connais sa date de naissance par cœur. Quand on m'a demandé son âge, j'ai su tout de suite répondre. On avait des relations privilégiées, voilà. Et on s'appréciait, quoi. Et le plus dur, ça a été d'identifier son corps, si vous voulez. Ça a été un moment éprouvant.
Et des coulées de boue, il y en a eu aussi dans le Val d'Oise, sur la commune de Weimar notamment. Heureusement, pas de victimes. L'heure est au constat et au nettoyage. Gros dégâts en Bourgogne. Une partie du vignoble a été ravagée, hachée par des chutes de grêlons, parfois gros comme des noix, de violentes averses de grêle qui sont tombées sur la région de Chablis. Carla Bruni, entendue comme mise en cause dans l'information judiciaire qui porte sur la rétractation de Ziad Taqiyeddine. La chanteuse et mannequin est interrogée depuis ce matin en audition libre dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption à Nanterre, une affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy, son mari, a été mis en examen début octobre. Ziad Taqiyeddine, c'est l'intermédiaire qui accuse l'ancien président d'avoir financé sa campagne en 2007 avec des fonds libyens. Le ministre de l'économie va convoquer sous peu le PDG de la SNCF. Il l'a annoncé ce matin sur RMC. Bruno Le Maire juge pas satisfaisant l'accord signé entre la direction et les syndicats qui annule une partie des conséquences de la dernière réforme des retraites. Cet accord permet à certains salariés de partir plus tôt avec 75% du salaire. Les demi-finales allées de la Ligue Europa, Marseille reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame à 21h. Atteindre la finale sera un vrai défi pour l'OM, mais le club a un atout, le Vélodrome, qui sera encore plein à craquer. Florent Germain, vous êtes en direct à Marseille.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que Pablo Longoria, le président, a appelé l'enfer du Vélodrome dans une interview justement accordée aux Italiens de la Gazzetta dello Sport. Le bruit, la ferveur des 65 000 supporters marseillais, c'est vrai que ça a souvent fait la différence cette saison dans une aventure européenne. Un 4-0 à Marseille contre Villarreal en huitième de finale. Une fin de match épique, c'était il y a pas si longtemps, contre Benfica en quart. Et Jean-Louis Gasset, hier, l'entraîneur, a même eu le sentiment, c'est ce qu'il disait, que c'est toute une ville qui s'apprête à jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. À l'OM d'en faire une force, d'espérer que cela puisse intimider l'Atalanta, même si, attention, les Italiens ont prouvé au tour précédent qu'ils savaient supporter les chaudes ambiances. Ils ont gagné 3-0 à Anfield sur la pelouse de Liverpool. L'Atalanta, équipe rugueuse mais talentueuse, sera soutenue aussi par 2800 fans italiens qui essaieront de se faire entendre au Vélodrome.
Merci Florent Germain à Marseille pour RMC. Bien sûr, soirée spéciale sur RMC en direct du Vélodrome, puis l'after et la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Hier soir en Ligue des Champions, le PSG s'est donc incliné 1-0 face à Dortmund. Match retour mardi prochain au Parc des Princes. Allez, on passe aux courses, Estelle.
Oui, avec le quintet qui a lieu à 20h15 sur la piste en sable fibré de Chantilly, une course handicap qui va opposer 16 galopeurs sur la distance des 1600 mètres.
Et quel est votre bon plan?
Aujourd'hui, on va partir sur le numéro 16, Star Rock. Il se plaît beaucoup sur ce parcours. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition depuis le début de sa carrière. Il peut donc logiquement prétendre à une place sur le podium.
RMC, c'était les tuyaux d'Estelle.
RMC, les midi 5, c'est Estelle Midi avec Estelle Denis.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Vous nous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. En tout cas, on est ravis d'être avec vous pour ces 3 heures de direct jusqu'à 15h avec, sur le plateau aujourd'hui, Paul Lassaigne. Bonjour Paul.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Il y a également le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
L'ancienne avocate et désormais présidente de l'association Femmes et Libres, Yaël Mellul. Bonjour Yaël.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et le journaliste et écrivain Fred Hermel, qui a mis sa plus belle marinière aujourd'hui. Bonjour Fred.
Oui, c'est pour faire comme la chef en fait.
Ah, exactement.
Tu vois, je suis un faillot.
J'ai failli en mettre une, heureusement que...
Bonjour tout le monde.
Heureusement que voilà, je vais garder pour demain.
Pas mal.
On va parler de superstition, oui. Tiens, aujourd'hui, mais pas que. On a un sommaire très dense. Hein. On va parler de Bruno Le Maire, tout d'abord, qui convoque le président de la SNCF après l'accord sur les retraites. Le ministre de l'économie doit-il taper du poing sur la table? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À midi et demi, le préfet de l'Aveyron qui autorise l'abattage des chiens errants par arme à feu. Est-ce logique ou choquant? À 13h, le gouvernement qui veut mettre fin au HLM à vie. Est-ce qu'il faut virer les locataires qui dépassent le plafond de ressources? On attend vos messages sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le zapping. À 14h, chat noir, échelle numéro 13. De plus en plus de Français sont superstitieux. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Il y aura RMC Conso à 14h30. On vous dira comment bien choisir vos confitures. C'est difficile. Il y a de plus en plus de confitures sur les rayons. On s'y perd. Heureusement, on vous donnera des petites astuces aujourd'hui. Et puis, il y aura bien sûr Vincent Serre aussi, notre humoriste. Ce sera à 14h50. Et des superbes places de football.
Oui, mardi 7 mai, mardi prochain, le PSG affrontera le Borussia Dortmund au Parc des Princes en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions et nous vous proposons de remporter l'expérience RMC. Vous venez ici dans les locaux pour l'avant-match, rencontrer toutes les équipes d'RMC Sport. Puis vous filez au Parc des Princes pour assister à la rencontre avec la personne de votre choix. Puis vous revenez ici pour assister à l'after-foot. Alors c'est simple, dès que vous entendez ce signal à l'antenne, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est le tacle de Bruno Le Maire au président de la SNCF. Le ministre de l'économie n'a pas du tout apprécié l'accord sur les retraites qui permet désormais aux salariés de la SNCF de partir 2 ans avant l'âge légal avec 75% de leur salaire. Écoutez tout de suite, Bruno Le Maire, il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin sur RMC.
Le ministre de tutelle, ministres de tutelle, n'a pas été informé. Il apprend cet accord. Cet accord ne me paraît pas satisfaisant. Il pose des problèmes financiers. Je rappelle que nous avons trouvé 35 milliards d'euros il y a quelques années, lorsque la SNCF avait besoin de rééquilibrer ses comptes. Bah, je suis en droit de demander des comptes aussi. Je tiens à connaître les moyens de financement de cet accord. Le président directeur général de la SNCF doit nous rendre des comptes.
Voilà, Bruno Le Maire qui dénonce l'accord sur les retraites trouvé par la SNCF. Rappelez-nous, Paul, quel est cet accord justement?
Eh bien, avec cet accord, Estelle, certains salariés pourront partir plus tôt que l'âge légal de départ en retraite. Les conducteurs de train, par exemple, eh bien, ils pourront entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%, un avantage qui sera payé par la SNCF et qui permettra de ne pas perdre de trimestre. Pour les contrôleurs, cet accord est encore plus avantageux avec une cessation d'activité s'étalant sur 36 mois cette fois, dont 18 non travaillés rémunérés là aussi à 75%. Alors, d'autres dispositions sont prévues dans cet accord sur le temps partiel de fin de carrière qui sera rémunéré 10% de plus que le temps réellement effectué. La direction de la SNCF qui a également proposé la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer la rémunération des cheminots qui arrivent en fin de carrière. Alors c'est une victoire pour les syndicats qui réussissent ainsi à contourner la réforme des retraites imposée par le gouvernement et qui vient alourdir la facture, oui, puisque d'après la fondation IFRAP, si tous les personnels utilisaient ce nouveau dispositif, ça coûterait 300 millions d'euros par an, une somme non négligeable, oui. Surtout quand on sait que le régime spécial de retraite de la SNCF coûte déjà tous les ans plus de 3 milliards d'euros.
Alors a priori, ce ne sont pas les contribuables qui paieraient ces 300 millions d'euros, mais il faudrait quand même bien les trouver quelque part. Bruno Le Maire doit-il taper du poing sur la table concernant cet accord de retraite avec la SNCF, Fred Hermel?
Oui, d'ailleurs, je vois deux gros problèmes dans cette histoire. Le premier, c'est qu'une entreprise qui appartient à l'État, c'est-à-dire dont l'État est l'unique actionnaire, qui, le ministre vient de le rappeler, rend flou quand il faut, 35 milliards d'euros il n'y a pas si longtemps, donc avec notre argent à tous, hein, avec nos impôts là-dessus, qu'une entreprise de ce type contourne la loi, en fait. Voilà, il y a une loi qui a été votée, hein, voilà, et on la contourne. Donc il y a peut-être un petit problème quand même, non? Donc ça me paraît hallucinant. Et l'autre chose qui me paraît dingue, c'est que le ministre ne soit pas au courant, quoi.
Oui. Mais alors, de deux choses, une, où il n'est pas au courant, et ça veut dire quand même que le gouvernement ne gouverne plus rien. Ah ben, ou alors, il ment et il était au courant. Enfin, dans les deux cas, il y a quand même un problème. Hein.
Mais comme je suis, tu vois, je fais confiance aux gens.
Oui, bien sûr.
Le ministre me dit qu'il n'était pas au courant. Je me dis, c'est peut-être encore plus grave. Parce que c'est dingue.
En fait.
C'est terrible. Oui. Mais non, mais c'est qu'il y a un truc majeur au sein de la SNCF et le boss, le patron, celui qui va faire le chèque quand il faudra les renflouer, c'est-à-dire le ministre de l'économie, n'est pas au courant. Toi, t'es au courant de tout ce qui se passe dans l'émission?
Ben, j'espère.
Je me dis, il y a pas quelqu'un.
Tout ce qui est sur l'argent, je suis au courant. Quand même.
Ben oui, c'est pour ça.
Oh, mais ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin, Fred, que ça. C'est que il prétend ne pas être au courant, alors même qu'il y a quelques jours, le ministre des Transports est venu sur RMC aussi dire que cet accord lui semblait tout à fait les termes de cet accord ne lui semblaient absolument pas excessifs, qu'il lui semblait que c'était la période idéale même pour le prendre, pour éviter justement qu'il y ait des grèves pendant les JO. Il a rassuré en disant que ce ne serait ni le contribuable, ni le client qui ne paiera cet accord d'entreprise. Il s'en porte même garant. Il a dit que ce serait les gains de productivité à l'intérieur de l'entreprise qu'elle est financée. Voilà, cet accord. Alors moi, je te rejoins sur ça, Fred. Soit le ministre, le maire nous ment, ce sera pas la première fois. Soit il y a un vrai problème d'incohérence totale au sein du gouvernement. Oui. Et ce sera pas la première fois non plus. Oui. Maintenant qu'il y ait eu cet accord au sein de la SNCF, moi, cela ne me choque pas parce que de toute manière, au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites, oui, qui, il faut le rappeler, a été passée en force, oui, je veux dire, tous les syndicats ont dit que de toute manière, ils lâcheraient pas l'affaire. Hein. Voilà.
Mais d'accord, mais donc, oui, mais attends,
donc voilà, là, donc ils l'ont pas lâché.
Mais d'accord, mais là voilà, c'est ils lâchent pas l'affaire les syndicats, mais a priori la réforme des retraites, elle est la même pour tout le monde. Donc si tu obtiens des avantages, ils sont les mêmes pour tout le monde.
D'accord,
là ça veut dire que chacun dans son coin va négocier ses petits avantages.
Oui,
super alors.
Bah oui, la preuve,
mais c'est avec l'argent des autres. Ouais.
Alors déjà pour les SNCF,
il y a bon dos le
Russell, manifestement pas. Et il y a d'autres accords. Il y a d'autres accords d'entreprise qui ont été pris. J'ai lu ce matin Michelin ou Orange aussi sur la retraite. Donc évidemment
pour les privés, c'est leur problème.
Michelin, c'est une entreprise privée.
Oui, mais si vous partez du, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un problème aussi de contournement de la loi, d'accord.
Donc il y a des plus grave quand c'est public et que c'est avec l'argent du contribuable.
Bah oui, mais si vous voulez, à partir du moment où une réforme elle a été passée par ce mode-là du 49-3 avec qu'elle soit légale ou pas, ça n'empêche pas qu'il y ait des accords d'entreprise.
Thierry Moreau, est-ce qu'il doit taper du poing sur la table, Bruno Le Maire, et est-ce que ça servira à quelque chose?
Ouh là là, Bruno Le Maire va froncer les sourcils, comme il l'a fait pour quand il devait convoquer la grande distribution pour qu'il baisse leur prix.
Ça n'a pas trop marché.
Comme il l'a fait pour demander aux entreprises d'embaucher des seniors. Donc à chaque fois qu'il fronce les sourcils, la France tremble. Non, plus sérieusement, c'est une gigantesque mascarade, cette histoire. Au moment où cet accord est conclu, le secrétaire général de l'UNSA, Didier Matisse, explique que l'État étant actionnaire principal de l'entreprise, ils ne peuvent pas ne pas être au courant. Premier point. C'est donc un syndicaliste qui a signé cet accord qui le dit. Deuxièmement, il y a une excellente enquête dans Le Point qui refait un petit peu le film et qui explique qu'en fait, selon leur enquête, donc ils ont contacté des spécialistes, des experts, des gens qui étaient au cœur de la négociation, au moment où tout le monde était dans la rue pour la réforme des retraites, à l'avant-garde, il y avait évidemment la SNCF et les cheminots, et pour les calmer, Borne a accepté, Elisabeth Borne en tant que première ministre, a accepté à ce que un accord qui permettrait de revoir la réforme grâce à un accord interne à l'entreprise. C'est les mots qui sont employés. Voilà. Si jamais on arrive à prouver ça, ce qui va être très compliqué parce que c'est peut-être une parole, c'est peut-être entre deux portes, etc.
Peut-être qu'elle l'a pas dit à Bruno Le Maire.
Je trouve que c'est. Oui, enfin, c'est.
Évidemment qu'il y a un truc qui va pas, c'est sûr.
C'est une honte absolue et surtout le plus dramatique dans cette histoire, c'est que ça dévalorise la parole du politique qui manque de courage, d'un courage monstrueux, parce que plutôt que de dire, eh ben non, tout le monde se met comme ça, on dit aux cheminots, bah vous ferez un petit peu votre cuisine dans votre coin, puis on va fermer les yeux. Parce
alors
que
c'est pas Bruno Le Maire qui gère ça, hein, c'est Jean-Pierre Farandou, c'est-à-dire que c'est pas Bruno Le Maire qui a la main sur les négociations avec les syndicats.
Je suis d'accord. L'État, premier actionnaire de la SNCF.
Oui, mais ils ont pas la main sur les accords avec les syndicats.
Je suis d'accord. Vous pensez vraiment que le téléphone est coupé entre Bercy et Farandou au moment où il arrive sur des trucs aussi pointus que de remettre en cause, ce que tu as dit, une réforme globale.
Mais attends, mais peut-être que Jean-Pierre Farandou, il a vu avec Elisabeth Borne et il se fout totalement de Bruno Le Maire.
Alors, c'est une autre solution.
Bah non, mais excusez-moi.
D'ailleurs, sur le poids de Bruno Le Maire au sein de ce gouvernement. En tout cas, tout ça est une vaste plaisanterie. Et surtout, ça donne des wagons de voix à toutes les oppositions radicales qui disent que nos gouvernants n'ont pas de courage, ne tiennent pas leurs engagements et n'ont pas de poids politique. Enfin,
oui, ou alors, il y a aussi, ça inscrit aussi une petite musique. Regardez, en fait, ce que dit Bruno Le Maire, clairement, ce qu'il a dit ce matin chez Apolline, c'est un peu, regardez, les salariés de la SNCF sont des privilégiés, ils ne respectent pas la loi. En fait, pour le coup, il a pointé du doigt la SNCF en fait. Hein. C'est un peu ça qu'il a fait quoi. Un peu.
On va changer quelque chose au final.
On monte les Français les uns contre les autres. Hein.
Je suis pas sûr qu'au final ça change quelque chose une fois qu'il aura convoqué Farandou qui va lui dire.
Ça change rien, c'est signé.
Moi, on m'a autorisé à le faire, je l'ai fait.
Hein. Oui, évidemment.
Ça va se passer.
À part virer Jean-Pierre Farandou, je vois pas bien ce qu'il peut faire. Et encore, je sais pas s'il a ce pouvoir là. Donc, on est avec aujourd'hui Vincent, notre premier auditeur, qui nous appelle de Paris et qui est contrôleur à la SNCF. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Très bien. Vincent, bonjour. Est-ce que vous tremblez depuis le coup de gueule de Bruno Le Maire ce matin chez Apolline?
Alors, trembler, non, je tremble pas.
Mais ça se sent pas comme ça.
Je pense pas qu'il va se passer grand chose. Et puis, quand bien même il se passe quelque chose, juste avant les JO, il se mettrait quand même une profession à dos. Et je suis pas certain qu'il ait envie de ça. Donc, je pense que c'était plus un coup de com' qu'autre chose. Donc, voilà.
Et est-ce que vous êtes content de cet accord, Vincent?
Oui, alors moi je suis contractuel, donc j'entendais dire que c'était que pour les statutaires, je précise, hein, c'est pour tous les cheminots, hein, c'est-à-dire que les nouveaux embauchés, les contractuels, les nouveaux embauchés et les statutaires récupèrent.
Même les nouveaux embauchés alors qu'il y a la clause du grand-père?
Ah bah alors la clause du grand-père c'était pour les conducteurs et les conducteurs qui sont embauchés depuis 2013, ils l'ont plus déjà, donc ça fait longtemps que les 50 bonifications sont parties pour les conducteurs, mais
c'est pour ça que je pensais qu'en fait n'étaient concernés que les anciens cheminots, on va dire.
Tous les cheminots. Après effectivement il faut un temps de
faut arriver à la retraite déjà.
Ouais,
faut arriver à faire 20 ans dans l'entreprise pour en bénéficier.
Il faut avoir fait 20 ans dans l'entreprise au minimum, ouais. C'est ça. Donc effectivement, les personnes qui rentrent à 45 ans en bénéficieront pas forcément, mais.
Mais vous dites pas, Vincent, là, ça c'est mauvais pour nous si Bruno Le Maire commence à dénoncer cet accord.
Bah en fait, c'est plus mauvais pour lui que pour nous, hein, parce que finalement, là nous on a l'accord, ça nous arrange bien et même avec ça on récupère pas ce qu'on a perdu.
Hein, vous avez bien fait de signer rapidement, vous voyez.
Oui, c'est ça. Bah, je pense que c'est pas mal, mais ça n'enlèvera pas forcément le fait qu'il y ait des grèves plus tard.
D'ailleurs, il y a un préavis qui vient encore d'être déposé. Malgré cette, c'est quand même fou. Vincent, après, bravo à vous pour cet accord, mais c'est vrai que là, quand ce matin on a vu qu'il y avait un nouveau préavis de grève déposé à la SNCF, on s'est dit quand même, là, c'est un peu abusé, quoi.
Bah, c'est pas abusé, c'est-à-dire qu'en fait on essaye de récupérer ce qui est récupérable. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. C'est normal, c'est-à-dire qu'on a une capacité.
Alors là, vous avez aussi tiré la pelote de laine, hein, quand même. Non, là vous êtes pas mal, Vincent.
Ouais, bah après, ce que je veux dire, c'est que ça fait, enfin, depuis 1995, on fait que perdre, hein, donc, en fait, gagner ce qu'on appelle maintenant le CAA, c'est pas non plus, ça n'a pas été mis rebolant, hein, c'est très bien pour nous, et on espère que toutes les autres professions pourront le récupérer. Il n'y a pas de souci.
Alors là, Vincent, je ne crois pas. Il n'y aura pas de ruissellement à ce niveau-là, ça c'est sûr.
Mais vous dites,
je tiens à préciser qu'on ne détourne pas la loi. Hein.
Non, mais
c'est l'accord de l'entreprise. Vous dites depuis 95, vous perdez. Bah oui, vous savez, quand j'ai commencé à bosser en 1990, la retraite était à 60 ans. Voilà, moi aussi, je me suis fait avoir de 4 ans.
Avec
tout le monde,
en fait.
Avec tout le monde. Voilà, donc c'est. Faut l'accepter, monsieur, c'est tout.
Les statutaires, alors moi je suis pas statutaire, mais les statutaires, ils ont perdu, ils devaient partir pour certains à 55, ils partent à 64, ils ont perdu 9 ans. Bon, pas normal.
L'égalité. C'est l'égalité.
Non, c'est le changement. Après, je comprends ce que dit Vincent. Tu changes pas les règles en cours de jeu, quoi. Voilà.
Si, pour moi on les a changées.
Bien sûr.
Pour nous tous, elles ont changé les règles en cours de jeu.
Mais après que Vincent.
Ah non, mais moi j'aurais bien voulu la clause du grand-père. Moi j'ai commencé à 90 à 60 ans, je pars à 60 ans.
Mais t'es pas fonctionnaire, donc voilà.
Mais après, rien ne vous empêchait en 90 de rentrer cheminot et d'avoir la clause du grand-père. Hein.
Mais oui, mais complètement. Mais je suis d'accord avec vous.
Voilà, bah, soyons tous cheminots.
Mais, non, mais il a raison, Vincent. Attends, on dit assez souvent dans cette émission, si t'es pas content, tu quittes ton job. Ouais. Enfin, tu vois,
bah, si je suis pas content, je vais pas payer les impôts pour la retraite des cheminots.
Mais les cheminots, ils cotisent aussi.
Ouais, mais ils touchent plus que par rapport à ce qu'ils cotisent.
Bah oui. D'accord, mais ils gagnent moins aussi. Donc, tu vois, à un moment.
Ça t'échappera pas parce qu'on n'a pas tout à fait le même boulot. Cheminot, chroniqueur.
Ah non, c'est pas le même boulot.
C'est pas tout à fait le même boulot.
Merci Vincent.
Ce que je sais, c'est que j'ai les mêmes horaires. Ça, je peux te dire.
En tout cas, c'est très agréable de discuter avec vous, oui. Vincent.
Très belle voix.
Merci beaucoup. Oui, Paul.
Oui, on a des messages. La réaction de Jean-Pierre Farandou.
Il nous a envoyé un message au 3216, ça m'étonne.
Non, il ne nous a pas envoyé de message. C'est très court. Hein. Il dit Bruno Le Maire est dans son rôle de ministre de l'économie en recevant le patron d'un groupe public. Voilà.
Quelle déclaration forte.
Donc, c'est une déclaration un peu neutre. Mais
on est sur du factuel, quoi.
Mais je peux vous lire des messages d'auditeurs. Je sais que ça vous intéresse un peu plus.
Ça
n'a
rien à faire, quand même. C'est ça que ça veut dire. C'est
un vent, quand même.
Mourad nous dit, c'est un scandale, il faut du courage politique pour privatiser cette entreprise. Au lieu de continuer à taper sur Bruno Le Maire, il faut taper sur les syndicats qui font du chantage sur les Jeux Olympiques. Et Amar nous dit, Bruno Le Maire est bien gentil, mais je pense qu'il se moque de nous, car l'État est bien actionnaire principal. Et oui. Ça me paraît énorme qu'il ne soit pas mis au courant.
Oui.
Il nous rejoint un peu tous, Amar.
Oui, et si on ne l'a pas mis au courant, ça veut dire que soit on ne se rend pas compte qu'il est là.
C'est très inquiétant.
Oui. De toute façon, pour lui, rien n'est bon dans cette affaire. Notre invité sur ce débat, c'est Erwan Tison, qui est économiste. Bonjour Erwan.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Il a eu raison ce matin, Bruno Le Maire, de passer un coup de gueule contre cet accord sur les retraites à la SNCF où en fait ça ne sert à rien parce que de toute façon il n'a pas la main dessus.
Bah, l'accord a été signé, donc maintenant ça va être très difficile de le détricoter. Et c'est vrai que ça paraît compliqué de s'imaginer que l'État actionnaire n'ait pas été mis au courant. Ou alors ça voudrait dire qu'il est un piètre actionnaire. Dans ces cas-là, ce serait peut-être plus inquiétant entre l'incompétence et l'impotence. Je ne sais pas laquelle des deux mots serait le pire dans ce cas-là. Après, là où on peut dire d'un point de vue plus politique, effectivement, il tape du poing sur la table. L'accord d'entreprise est libre. Chaque entreprise est libre de faire l'accord qu'elle veut. Par contre, là où ça peut être problématique, c'est que la SNCF ne coûte quand même 20 milliards d'euros par an, et l'accord se fait au détriment des usagers et des contribuables qui sont très souvent la même personne. Que demain Michelin, Total ou quoi que ce soit décide de mettre en place la retraite à 50 ans,
c'est leur
parce
problème.
Que du coup ils le décident et qu'ils le financent surtout, aucun problème. Là je rappelle quand même que le régime spécial des cheminots nous coûte encore chaque année entre 3 et 4 milliards d'euros aux contribuables. Donc se dire que c'est déjà le contribuable qui finance la retraite, on va dire anticipée, des cheminots et qui en plus va financer une réforme qui ne s'applique pas à lui, c'est un petit peu la double voire la triple peine, surtout quand on voit que les prix des billets continuent à augmenter pour le voyageur. Donc effectivement ça peut interroger, notamment quand on se dit que la SNCF est une entreprise encore une fois 100% publique.
Mais est-ce que l'État aurait dû plus s'impliquer justement sur cet accord? On a l'impression que tout a été fait en dehors de l'État.
Bah, techniquement, l'État le fait. L'État siège au conseil d'administration. L'État est actionnaire. Donc, l'État doit savoir ce qui s'y passe. Hein. Si l'État ne sait pas ce qui s'y passe, là, pour le coup, c'est très grave. Et ça pose la question sur l'actionnariat. À mon avis, effectivement, il y a des grandes chances qu'il savait. Il y a des grandes chances qu'il ait laissé passer. Faut pas oublier qu'il y a les Jeux Olympiques dans quelques semaines. Il y a beaucoup de négociations qui se sont faites de manière très accélérée, très généreuse. À cause de cette échéance-là. Donc, à mon avis, l'État savait, mais l'État ne savait pas que ça prendrait autant d'ampleur dans le débat public.
Alors, on l'a dit, hein, cet accord va coûter 300 millions d'euros. On nous dit que les contribuables ne vont pas verser un centime. Est-ce que ça, c'est vraiment possible?
Bah, c'est complètement faux, parce que aujourd'hui, la SNCF finance, enfin, c'est le contribuable qui finance la SNCF, que ce soit par l'impôt ou par le prix du billet de train. On remarque qu'il y a déjà une part du billet de train qui est, on va dire, dédiée au financement de certains régimes spéciaux. Donc, c'est complètement faux de dire que la SNCF ne contribuable ne paiera pas cette hausse-là, parce que la SNCF est 100% payée par le contribuable.
Si Bruno Le Maire a écouté cette émission, il a dû passer un bon moment.
En tout cas,
ben oui, Erwan Tison, il est cash et tout, et il répond à toutes nos questions, c'est très agréable. Merci beaucoup, Erwan, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné plein de renseignements sur cet accord. Je voudrais qu'on prenne Cédric en ligne qui nous appelle de Saint-Marcellin. Oh là là, quelle chance il a d'habiter là-bas dans l'Isère. Bonjour Cédric.
Bonjour Estelle, comment ça va?
Bonjour. Bah, écoutez, très bien, Cédric, livreur de fruits et légumes bio. Cédric, je vous sens agacé par cet accord sur la retraite, sur la SNCF.
Je pense pour beaucoup de gens. Beaucoup d'ouvriers, moi, avant d'avoir été chauffeur livreur de produits bio, j'ai fait aussi du placo pour des grosses boîtes, pour mon compte. J'ai payé, donc là, je pense aux ouvriers dans des petites entreprises, comment eux, ils vont faire à 62, 63 ans pour faire valoir le droit de partir plus tôt, la difficulté de leur métier par rapport à celui de cheminot, parce qu'on n'est plus à mettre du charbon dans des Michelin, je le connaissais, mon grand-père faisait ça. Donc voilà, je trouve ça hallucinant qu'encore une fois, la SNCF trouve un moyen de détourner, je dirais pas la loi, de contourner, de l'adapter, de trouver. La seule réponse que j'ai, moi, c'est leur capacité à être syndiqués tous. Nous, c'est vrai que les petits, tous les petits, on a un tort, c'est qu'on n'arrive pas à se rassembler, à se fédérer et à dire à un moment, hé, la richesse française, c'est nous qui la faisons. Donc maintenant, on arrête. Tous un matin, on se dit tous, on arrête. On va voir notre patron, même si c'est notre pote. Pas mon patron, c'est un pote avant d'être mon patron. Et je lui dis, ben là, je peux plus. Mais j'en ai pas contre toi, j'en ai contre le système.
Ouais, mais vous êtes moins nombreux.
On prend pour des imbéciles.
C'est ça.
Normalement, on est plus nombreux, mais c'est ça.
Ah oui,
de se fédérer, syndiquer.
Mais
de
le problème.
De tenir la main tous ensemble et dire stop.
Oui, mais parce que vous êtes dans plusieurs entreprises différentes, c'est-à-dire que la SNCF, c'est une seule entreprise. Donc en fait, quand il y a un groupe de la SNCF, soit les contrôleurs ou les cheminots qui font grève, bah ça se voit. Là, vous êtes une entreprise, mais si tous les livreurs de France se mettaient en grève le même jour, ça aurait du poids.
Je pense pas qu'aux livreurs.
Mais si tous les indépendants, on va dire, se mettaient en grève le même jour, mais c'est compliqué.
Toutes les petites gens, les sans-dents, comme le disait l'autre, on s'arrête tous un matin. Et on prévient notre patron la veille, on dit non, demain je viens pas.
Ouais. Mais le problème, c'est que ça se passera jamais. C'est ça, Cédric.
Elle est là, la problématique. Ouais. C'est que à la SNCF, ils sont syndiqués, ils ont un mouvement politique, soi-disant apolitique, mais qui arrive à leur tenir la main et à les défendre.
Ouais. Mais c'est la même entreprise.
On ne peut pas se défendre. Et puis, dans certaines boîtes, c'est même pire. Mais si tu n'es pas content dans le pays, il y en a 15 qui frappent à la porte. Enfin, maintenant, de moins en moins quand même. Il y avait 15 Roumains qui attendaient pour rentrer. Mais les Français ne voulaient pas faire ce boulot-là, en plus. Donc,
mais aujourd'hui, tout le monde ne se bouscule pas pour être à la SNCF.
La SNCF a détourné le système qui a été fait pour qu'on soit tous traités de façon égale. Donc, soit tout le monde bénéficie de ce que la SNCF bénéficie, soit non.
Mais alors après, je dirais pas. Après, je suis désolée, je dirais pas la SNCF parce que encore une fois, il y a un patron à la SNCF qui pouvait dire non. Je dirais, les syndicats, ils ont très bien négocié, mais c'est même pas vraiment un contournement de loi, c'est un accord en fait. Mais effectivement, le problème, c'est que c'est une entreprise qui est publique. Donc évidemment, c'est embêtant parce que c'est le contribuable qui paye. Mais encore une fois,
c'est autofinancé, c'est ça le problème.
Oui, mais si on avait eu cet accord avec RMC, ça gênait personne. Tu vois ce que je veux dire?
Non, parce que le contribuable ne paye pas.
Ben c'est ce que je te dis. Voilà. Le problème, c'est pas le contournement de la loi.
Les avocats qui ont leur propre caisse de retraite et tout ça, et c'est leur problème. Ouais. Mais s'il y a un déficit, ils auront moins de retraite. C'est pas le contribuable qui va boucher le trou, comme fait.
Elle est pas trop en déficit, leur caisse.
Hein. Mais après, c'est bien géré, c'est leur problème.
Ouais. On a quand même juste un peu l'impression de s'être fait avoir cette histoire, puisqu'il y a à la fois donc les syndicats qui ont joué leur rôle, vous l'avez rappelé, le patron de la SNCF qui signe l'accord, et l'État dont on nous explique par A plus B qu'il était au courant. Donc voilà, donc on s'est tous fait avoir. Voilà.
Alors, merci en tout cas Cédric d'avoir été avec nous. On parlait donc de ses retraites à la SNCF. Bruno Le Maire doit-il taper du poing sur la table, Paul?
On vous a posé la question sur nos réseaux sociaux et vous répondez oui pour 74% d'entre vous.
Allez, dans un instant, on aura le débat qui plaisait le plus à Barbara Lefebvre. Dans un instant, on parlera du préfet de l'Aveyron qui a autorisé l'abattage des chiens errants dans le département par arme à feu. Est-ce que ça vous semble logique ou choquant? On en parle dans un instant dans Estelle Média, tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 33, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Paul Lassen, Thierry Moreau, Yael Mellul et Fred Hermel. Et tout de suite, on va s'intéresser à la polémique du jour. Ça se passe dans l'Aveyron où le préfet a autorisé l'abattage des chiens errants par arme à feu, des chiens coupables de décimer des troupeaux de brebis. Mais plusieurs associations de défense des animaux ne l'entendent pas de cette oreille, Paul, et ont déposé un recours.
Oui, l'association de défense des animaux, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a rejoint l'association One Voice qui, il y a une semaine, avait déjà décidé de contester cet arrêté en justice. Petit rappel, les agents de l'Office français de la biodiversité, un établissement public, et les lieutenants de la louetterie, auront l'autorisation pour un mois de 20h à 8h d'abattre les chiens en état de divagation sur plusieurs communes. Une décision prise en raison de l'ampleur des dommages constatés sur les troupeaux domestiques. Sauf que du côté de ces associations, on dénonce une décision préfectorale inhumaine et inacceptable sur le plan moral avant de taper encore plus fort. Si vous êtes capable de prendre un tel arrêté, je n'ose pas imaginer celui que vous prendriez en cas de conflit de la population. Ça, c'est ce que dit l'association One Voice. Ces associations regrettent aussi un tel assouplissement des conditions d'abattage plutôt qu'une obligation d'installation de protection pour tout type d'animaux. C'est ça qu'ils disent. Une décision opportuniste en surfant, je cite, sur l'émotionnel pour allier la population à son idéologie antispéciste.
Alors, pouvoir abattre des chiens errants, est-ce que c'est normal ou choquant, Thierry Moreau ?
Alors moi, ça ne me choque pas parce qu'évidemment, il s'agit de chiens errants, sauvages, dangereux.
Bien sûr.
Mettre des protections, on sait très bien qu'un chien sauvage, affamé, les protections ne suffiront pas, ils franchiront les protections. Quiconque a un poulailler, un truc, sait très bien que les animaux, quand ils ont faim, ils y vont et on peut difficilement les empêcher. Moi, ce qui m'a surtout gêné, d'abord, on va évidemment tuer des chiens donc dangereux, pas le chihuahua de Ginette Mouillebeuf, hein, qui est perdu depuis 3 jours.
Un chihuahua n'a jamais tué une brebis. Hein.
On est d'accord. Mais c'est en ça que je dis que on va évidemment, il y aura de la discrimination dans le choix, évidemment, de la cible.
T'as déjà vu un chihuahua errant?
Mais c'est pour ça que je dis
ça.
Mais c'est pour ça que je dis ça.
Il faut savoir qu'au Mexique, les chihuahuas sont utilisés pour ranger les troupeaux, de taureaux.
Si quelqu'un,
parce qu'il leur mordit les pattes.
Ce que je voulais dire par là, par ce bon mot,
la culture,
c'est pour dire qu'on ne va évidemment pas tuer le chien de monsieur et madame tout le monde qui sont perdus depuis 3 jours. Ce sont des chiens sauvages.
Et le chien ne va pas dire salut, je suis perdu depuis 3 jours.
Parce que justement, ce sont des gardes forestiers, des gens qui sont des spécialistes de cette question-là, qui vont repérer les chiens errants sur plusieurs villages. C'est ce qui est dit. Moi, ce qui me gêne le plus...
Comment tu peux repérer un chien errant depuis 1 mois et un chien errant depuis 3 jours?
L'aspect.
D'abord, si le chien a un collier, si le chien a été signalé comme étant perdu et qu'on retrouve un chien qui ressemble dans le village d'à côté. Enfin, il y a plein de moyens, il faut arrêter. Non, mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est le communiqué de l'association qui dit texto, une personne capable de tirer sur un animal est aussi capable de tirer sur
un animal.
Et donc, il faut
et
pas...
Et même qui disent, si t'aimes pas les bêtes, t'aimes pas les hommes.
Je trouve ça d'un ridicule achevé. Là, c'est un danger pour les troupeaux, un danger aussi pour les populations. On verra ces associations le moment où il y a un gamin qui va se faire embêter, voire blessé par un chien sauvage.
C'est une chose, mais
on attend. Voilà, c'est juste, c'est ciblé dans le temps, c'est ciblé sur géographiquement, donc au secours, quoi.
Yael Mellul, je sens que vous trouvez ça très inhumain.
Ah, mais moi, je suis extrêmement choquée. Je trouve
choquée
ça
par quoi ?
Inhumain, inacceptable, moralement.
C'est pas des humains. Hein.
C'est des êtres vivants. Hein. Mais on parle d'êtres vivants tout de même. Hein. Voilà. Donc, en parlant d'être vivant, on peut parler aussi de déshumanisation de l'attitude que les humains, justement, ont pour ces êtres vivants. Comment est-ce qu'on va trier les animaux super dangereux? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt essayer de trouver un autre moyen de les mettre hors d'état de nuire?
Bien sûr, les SPA sont pleines, ça ne va pas échapper.
Ah bah alors,
c'est la faute de qui, ça? Mais la faute des maîtres, en fait, ils n'avaient qu'à les stériliser.
Ah bah oui, mais alors il faut un débat sur le fond, sur le bien-être animal, sur la souffrance animale, mais que la solution aujourd'hui apportée par certains ce soit de les tuer.
Bah oui.
Mais
tu t'es déjà retrouvé en face d'un chien errant, en fait. C'est un berger allemand, tu sais pas quelle réaction il peut avoir.
Et donc la solution, c'est d'avoir une arme à feu et de le tuer. Hein. Bah, c'est ça la solution.
T'es tranquille.
On est tranquille. Alors on peut déplacer cette solution. L'utiliser pour tout.
Ah mais j'étais sûre que t'allais dire ça. Mais comme l'association animaliste là. Bah oui.
Ah mais bien moi je suis. Ah mais moi je suis.
C'est des animaux dangereux.
Je suis persuadée que quand on est violent avec un animal, on peut tout à fait être violent avec un.
Quasi de retour à l'état sauvage.
C'est pas violent en fait.
Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver. Alors, d'un côté, il y a des assos, des groupes qui vont être contre l'abattage routier rituel pour que justement on épargne les animaux. Et d'un autre côté, on va les tuer avec arme à feu. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un si, puisque c'est s'occuper de l'être vivant qu'est l'animal.
Mais
justement,
avant de s'occuper des chiens errants, moi personnellement, je préfère m'occuper de la population.
Oui.
Mais si ça te dérange pas.
Nos impôts.
Il y a un moment où en fait les chiens errants
sont compatibles.
Mais c'est des chiens dangereux.
Mais on peut pas. Mais est-ce qu'on peut pas trouver un moyen un peu moins radical, voilà, c'est tout.
Mais quel moyen radical,
voilà. Je sais pas, par exemple, l'euthanasie, par exemple, voilà. Sans arme à feu, voilà.
Voilà. Bah, tu le tues quand même, quoi, enfin, du coup.
Ah bah, si
c'est pas, dans, c'est pas dans les mêmes conditions.
C'est pas tout à fait les mêmes conditions.
Ah, c'est les conditions qui te gênent, d'accord.
De la même manière.
Tu vas mettre en danger les agents qui vont devoir effectuer ça parce qu'il va falloir les attraper.
Frédéric Hermel,
tu les mets en danger. Excuse-moi, il les tue parce que c'est difficile de les choper.
Oui, mais avant de les tuer, il y a quand même, rassure-moi, il y a quand même une enquête qui est faite sur
c'est
l'animal.
C'est des chiens sauvages.
Oui, c'est des chiens sauvages.
Enfin, je veux dire, on est d'accord.
Ben oui.
Donc,
et après, il les tue, mais
comme des loups.
On n'arrive pas à les attraper. Et puis, excuse-moi, je vais me permettre, moi qui étais élevé à la campagne, je vais te dire, La vie d'une brebis, pour moi, elle vaut autant que la vie d'un chien errant. Elle vaut même plus. Parce qu'en plus, la brebis, elle est la propriété d'un...
Elle donne du lait.
Tu la manges, elle donne du lait, elle donne de la viande. Et puis non, puis c'est le travail d'un berger, d'un éleveur. Je veux dire, c'est... Mais c'est l'outil de travail de la personne.
Bien sûr.
Mais c'est-à-dire que le type... C'est comme quand on a réintroduit le loup. Où t'as des gens on a réintroduit le loup, ça tue des dizaines et dizaines de brebis, ça fout en l'air des exploitations.
Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne, ça va être très intéressant. Xavier, qui vit à Revel, c'est en Haute-Garonne et c'est tout près de l'Aveyron. Bonjour Xavier.
Bonjour Estelle.
Bonjour. Xavier, est-ce que vous avez vu beaucoup de chiens errants du côté de l'Aveyron?
Alors, des chiens errants, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de toute façon en France. Par exemple, nous, on en a eu quelques-uns du côté de Revel parce qu'il y a un centre de vol à voile qui a servi de festival pour les chépères et tous les gens qui aiment la musique hardcore. Mmh. Et à chaque fois qu'il y a un rassemblement, vous pouvez être sûr qu'il y en a quelques-uns qui oublient d'embarquer des chiens.
Ah, c'est-à-dire qu'ils laissent leurs chiens?
Ben non, mais des fois, il y en a qui les oublient ou les chiens se tirent pendant le festival.
C'est quand même très embêtant d'oublier un chien. Enfin, je veux dire,
Oui, mais parce que les mecs, ils se mettent la tête pendant 4 jours. Hein, donc,
Ah oui, je veux dire, c'est des toughers.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah oui, oui, c'est oui.
Et des chiens errants, oui, il y en a. Et puis surtout, le chien, au bout d'un moment, il reprend son instinct sauvage. Donc, aller le récupérer, c'est compliqué.
C'est bien sûr.
Et cette autorisation. Alors, les éleveurs qui, eux, on nous demande de faire du pastoralisme, qu'il faut arrêter avec les élevages en batterie industrielle et tout, qu'il faut que ça vise dehors. Bah non, parce que du coup, vous avez des animaux sauvages qui peuvent les attaquer. L'association qui dit, oui, bah alors va falloir les parquer. Bon, bah à ce moment-là, ça sert à rien de faire du pastoralisme.
Bah oui,
le pastoralisme, c'est censé être quelque chose de mobile, de nomade. Et puis, c'est pas Pierre-Paul Jacques ni vous Estelle qui allez prendre un fusil, qui allez vous amuser à faire un carton.
Exactement.
On va faire appel aux louvetiers. Les louvetiers, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, que c'est un service d'État. Ce sont des fonctionnaires.
Absolument.
Ce sont des fonctionnaires qui portent le titre de louvetier, mais il ne faut pas croire qu'ils tirent sur des loups toute leur journée.
Donc,
ils sont mandatés, voilà, des professionnels qui vont, par exemple, dans une forêt privative où il y a eu une invasion de chevreuils ou de sangliers, et qui vont faire un abattage ciblé. Ce n'est pas des choses qui sont faites comme ça...
Ah, oui, c'est pas monsieur tout le monde qui prend sa carabine, quoi.
Décisions préalables qui ont été prises et on va appliquer la décision qui est faite. Ce sont des fonctionnaires, donc à décision de l'État.
Donc vous êtes tout au fond.
Ben oui, en plus, moi je suis éleveur canin dans une de mes activités.
D'accord.
Et je sais qu'un chien qui est errant, qui s'est désociabilisé depuis 2-3 ans, je ne sais pas combien de temps,
on peut rien faire.
Ben, c'est très compliqué de l'approcher, quoi. Moi, j'ai des chiens qui sont d'une race qui sont pas forcément avenants avec l'étranger. Ils vont pas être agressifs, mais ils ne vont pas aller se faire caresser par le premier venu, tu vois. Enfin, vous voyez. Du coup, si j'en avais un qui dégueulait pendant 2-3 ans, puis je pense que ça mettrait la pression en plus, parce que bon, moi, j'élève des dogs allemands.
Oui, ça met bien la pression.
C'est Scooby-Doo, chien d'une belle taille. Donc, si vous êtes une dame, aujourd'hui, on dit tout le monde veut pouvoir se balader en forêt, en campagne et tout ça. Si vous vous baladez avec les deux gamins qui sont sur leur petit vélo et que vous avez un chien d'une taille imposante qui arrive, vous allez peut-être avoir les genoux qui claquent.
Ah non, mais moi j'ai eu la peur de ma vie comme ça un jour lors d'un footing et c'était horrible. En fait, je savais pas quoi faire. On se retrouve avec un chien qui est hyper menaçant. Non, mais bien sûr, il y a les troupeaux de brebis, mais il y a aussi les gens qui ont quand même le droit de se promener sans avoir à se retrouver devant un chien errant et sans savoir la réaction du chien errant. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier, d'avoir été avec nous. On a également Sébastien qui nous appelle de Pringy en Seine-et-Marne. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et Sébastien, vous vouliez réagir sur ce débat. Pour ou contre l'abattage des chiens errants?
En fait, je ne suis pas ni pour ni contre, mais je comprends. Je conçois. Je ne conçois pas, mais je comprends. Parce que, comme l'a dit Fred, on est sur des personnes qui ont besoin de leur troupeau pour vivre, pour nourrir la population, pour gagner leur salaire. Et donc, au bout d'un moment, en fait, moi, quand j'ai vu l'article, j'ai d'abord pensé en fait aux personnes qui sont incivilisés, parce que moi j'habite, bon, c'est une région moitié rurale, moitié campagne, il y a beaucoup de chiens qui se baladent. Alors moi, ça m'arrive que mes chiens se sauvent, mais ça arrive peut-être une fois, deux fois dans l'année, ils vont pas, voilà. Y a des gens, il y a des chiens, on les voit tout le temps dans la rue, seuls.
C'est ça.
Oui, c'est complètement. Et donc du coup, là, nous,
pendant des
on
mois et des mois.
Troupeau en Seine-et-Marne, mais quand vous êtes dans un endroit où il y a un troupeau où vous avez une bestiole qui est abîmée et que c'est, ça fait partie de votre troupeau, que ça fait partie de votre gagne-pain, je comprends. Maintenant, je conçois pas parce que c'est la porte ouverte aussi à un moment donné à dire, ben, on va faire pareil avec les gosses quand les gosses ils sont errants et qu'ils font des conneries, on a le droit de leur tirer dessus.
Ou alors, on n'est pas là quand même, hein, sur les chiens. Là, il y a une petite frontière. Vous voyez ce que je veux dire entre les deux.
Bah, on peut tuer les chats aussi parce que les chats ils nous font chier.
Mais les chats ils bouffent à des brevis. Enfin, vous avez pas de chats qui vont manger un troupeau ou un enfant.
Des poules. Ce que je veux dire, c'est que ça ouvre la porte d'un côté, donc du coup je conçois pas. Mais d'un autre côté, je comprends parce qu'il y a des personnes qui vivent des élevages. Tout comme, je vous dis, les animaux errants, au bout d'un moment, il faut aussi que les propriétaires d'animaux se responsabilisent.
Mais oui, et stérilisent leurs bêtes. Bah oui. Non, mais vous avez entièrement raison.
Ils stérilisent parce que bah, les chiens errants, les chiens errants viennent de aussi, il y a des vrais chiens errants qui ont toujours été errants, qui viennent d'animaux parce que les gens n'ont pas stérilisé leurs animaux et les laissent partir partout.
Alors, donc, moi,
j'ai
leur mettre des amendes.
J'ai un chien qui n'est pas stérilisé, mais il est chez moi, et quand je le sors, il est avec moi. Et alors, lui, en plus, il se sauve très peu, mais voilà. Mais il y a un moment donné où, en fait, on est obligé d'en arriver là pour responsabiliser les gens, pour faire en sorte que les gens soient responsables. Et c'est aussi une démonstration que la société va de plus en plus mal. On est obligé de dire on va tuer des animaux de compagnie, puisqu'à la base, des chiens sont quand même considérés comme des animaux de compagnie, d'enfreindre une loi. Alors ça, c'est pareil, il faut que le Conseil d'État accepte la décision du préfet, parce qu'il y a quand même une loi qui interdit de tuer des animaux de compagnie.
Oui, mais alors là, excusez-moi, pardon, mais c'est plus des animaux de compagnie. Là, ça devient des chiens errants, et ils sont surtout plus animaux de compagnie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a le droit de les abattre dans l'Aveyron. Évidemment, on va pas, encore une fois, abattre Chichi, le petit chihuahua, je veux dire, d'une vieille dame. Hein.
Le berger allemand qui s'est échappé, quoi. Voilà.
Oui.
Je veux dire, s'il a un collier,
s'il a été signalé à la mairie, évidemment que les louvetiers vont faire attention avant de l'avoir dans le viseur.
Merci Sébastien, en tout cas, d'avoir été avec nous. Est-ce que ce sujet déchaîne les passions sur la vie RMC, Paul?
Je vais vous lire ce message de Maxime qui nous dit « Je veux bien entendre que ces chiens posent problème, mais on se rapproche tout de même de la cruauté animale. Nous allons abattre des chiens errants, mais typiquement, on parlait des chats. Que fait-on pour les millions de chats en divagation partout ?»
Mais ils sont moins dangereux. On a rarement vu un chat.
C'est aussi un problème, hein.
Oui, c'est un problème. Enfin, oui, c'est un problème parce que c'est vecteur de maladies, etc. Oui. Mais enfin, bon, au niveau des morsures, tu vois, je préfère être mordu par un chat.
Ça détruit beaucoup la biodiversité, notamment les oiseaux, les chats errants.
Oui.
C'est un vrai problème.
Et les poules. Enfin, il suffit de fermer la porte.
Et donc, est-ce que tu préconises aussi
Non, on n'a pas
de problème.
Il ne préconise rien.
Stérilisation.
Le résultat de notre sondage, Paul.
Abattage de chiens errants, trouvez-vous ça logique ou choquant? Eh bien, pour vous, c'est choquant à 65%.
Dans un instant, Anthony Morel qui viendra sur ce plateau, qui nous parlera de la voiture star du moment. C'est la Tesla Made in China, la Tesla chinoise. Ça s'appelle la BYD. Tout simplement, c'est une voiture chinoise et qui va faire un carton. Anthony Morel nous dira pourquoi. Et à 13h, on parlera du gouvernement qui veut mettre fin au HLM à vie. Est-ce qu'il faut virer les locataires qui dépassent le plafond de ressources? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
1051, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et on va parler voiture et nouvelles technologies. Anthony, alors c'est vrai que quand on dit ça d'habitude, on pense Tesla. Mais désormais, il va falloir penser BYD ou BYD, comme je le disais avant que vous me...
Non mais c'est BYD, c'est très
vous
bien.
Vous me repreniez. C'est une voiture chinoise bardée de petites nouvelles technologies.
Oui, absolument. Et c'est une marque en fait dont vous allez de plus en plus entendre parler. Ils sont en train de conquérir la France. Ils ont pour l'instant une vingtaine de concessions, mais ça... commence à vraiment se développer. Donc BYD, c'est BYD en fait, ça s'écrit.
Donc BYD.
BYD si vous voulez, c'est-à-dire Build Your Dream. Bon, c'est une marque chinoise en gros. Et ils présentent des voitures, en gros, ils sont vraiment les concurrents de Tesla. C'est des voitures électriques, mais avec des technologies complètement dingues à l'intérieur. Là, le modèle qu'on voit pour ceux qui nous regardent à la télé, je vais vous donner quelques-unes de ses caractéristiques. Bon, c'est du gros SUV qui tâche, hein, on est d'accord, c'est de la voiture électrique.
Ouais, on n'est pas sur une voiture écolo.
Non, clairement pas, ça pèse 3 tonnes. Mais alors, avec des fonctionnalités complètement dingues. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture faire demi-tour et même un tour complet sur elle-même en appuyant sur un bouton, par exemple?
Non, mais quel est l'intérêt?
Je sais pas, quand vous voulez faire un demi-tour, par exemple, vous appuyez sur le bouton, vous n'avez pas besoin de faire la manœuvre, la voiture fait demi-tour et vous repartez. Voilà, c'est pourquoi. Je vous dis pas que c'est hyper utile.
Oui,
je vous dis que la performance technologique est quand même dingue. C'est-à-dire que vous avez un moteur électrique dans chaque roue, les roues peuvent partir dans des directions différentes et donc ils ont intégré ce truc-là. Et donc en appuyant sur un bouton, on peut faire demi-tour à la demande. Bon, pourquoi pas? Autre truc peut-être encore plus dingue, à l'intérieur de la voiture, dans le toit, il y a un drone. il y a un drone intégré.
Oh, j'adore.
Donc vous appuyez sur un bouton sur le tableau de bord, et bah, par exemple, pour aller voir ce qui se passe devant, s'il y a un accident, s'il y a des embouteillages, vous appuyez sur le bouton, le drone décolle du toit, il file, et alors il peut vous faire des images en temps réel que vous récupérez sur le tableau de bord qui vont être streamées. Alors ça peut être soit pour voir la circulation, ça peut être aussi si vous êtes sur le chemin des vacances pour prendre des images, des paysages pendant que vous êtes en train de rouler.
Il me semblait qu'on n'avait pas le droit d'utiliser un drone partout, mais je peux me tromper.
C'est absolument interdit en France.
Ah oui, voilà, oui.
Non, mais il va falloir des réglementations spécifiques, je vous le dis tout de suite, très très clairement. Mais le potentiel est là. Après, je ne sais pas en Chine quelle est la réglementation pour les drones en ville, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ils ont présenté ce modèle-là qui est absolument dingue et qui propose aussi. Alors,
combien
c'est hyper cher. C'est, alors là, pour
ah
le coup.
Bon, je croyais que c'était chinois.
Oui, bah attendez, les marques chinoises, c'est pas... maintenant, c'est faut arrêter avec cette idée que le chinois, absolument, il y a du très haut de gamme sur les smartphones. Et regardez les smartphones de marques chinoises, il y a du haut de gamme, il y a des téléphones à plus de 1 000 euros maintenant. Maintenant, en termes d'innovation, ils ont plus rien à envier aux Américains notamment. Et donc une voiture comme celle-ci, alors là c'est un SUV, donc elle a plus de 100 000 euros facilement.
Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui.
Non, mais là c'était le très très haut de gamme, mais c'était pour vous parler de cette marque qui maintenant vraiment se place en face de Tesla. Il y aura aussi des modèles évidemment.
Oui, il y a des modèles bas de gamme,
bien sûr, entrée de gamme qui sont beaucoup moins chers. C'est de l'électrique. Celle-ci, elle affiche quand même 1000 km d'autonomie.
C'est génial.
Donc là, pour le coup, on est sur du très très lourd aussi de ce point de vue-là.
Une grosse batterie alors.
Avec une
très aussi. Écolo.
Bah, t'as vu la taille de la voiture. Mais non, mais c'est clair.
Parce que 1000 km, c'est une batterie énorme.
Mais évidemment. Non, mais c'est pour ça. C'est de l'écologie. C'est on va dire, c'est de l'électrique, mais fausse conscience écologique. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment du gros SUV qui fait mal, quoi.
Gros SUV qui tâche, quoi.
Exactement.
Et ça va conquérir le marché.
Ouais. Bon. Et en plus, elle nage. Je sais pas si on a vu les images. Je vous ai pas dit ça.
Ça, elle nage.
Mais bah, elle va dans l'eau aussi. Alors, elle est pas complètement amphibie.
Quel est l'intérêt ? Vous me vendez une voiture.
Bah, c'est un SUV. Ouais,
quand il y a des inondations, il y a des bateaux en ce moment.
Mais exactement.
Pour traverser le village.
Bah, tu mets ta voiture ailleurs. Enfin, écoute, je sais rien, mais enfin, franchement.
Mais Estelle, après, c'est des SUV, donc c'est pas censé. Bah, je sais bien qu'il y a plein de Parisiens qui ont des SUV, mais c'est pas censé rouler dans les villes, les SUV. C'est des voitures qui sont censées, justement, pouvoir rouler dans des circonstances un petit peu plus compliquées.
C'est ça.
Donc, vous avez un mètre et demi d'eau, bah, vous passez, la voiture, elle passe en mode bateau, en fait.
Est-ce qu'on peut faire beaucoup de kilomètres ? Est-ce que je peux aller, au lieu de prendre le ferry pour aller
Non, tu peux pas. Non, parce que c'est limité. Alors, je crois que c'est un mètre et demi et c'est une demi-heure d'autonomie dans l'eau.
Ah oui.
Donc voilà, tu peux pas traverser la Manche, quoi. Non, c'est pas possible.
Il y a beaucoup de si, dans votre chronique.
Il y a quelques si.
Tu me permets.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Anthony Morel, de nous avoir présenté cette voiture révolutionnaire qu'on n'achètera pas, mais enfin, c'était quand même sympa.
Mais c'est une prouesse technologique.
On parle de quoi demain?
Demain, on va parler d'appareils électroniques que vous pourrez garder toute votre vie. Voilà, des appareils électroniques.
Non.
Bah, là, vous avez envie de changer.
Ah oui.
Des écouteurs que vous pouvez réparer tout seul.
Ou
encore une enceinte que vous pouvez garder pendant des années.
Je vais en vendre à d'autres et racheter du neuf.
Ah bah, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Écoutez.
Enfin, bon, écoutez, vous serez là demain quand même. Oui, voilà. Dans un instant, nous allons parler de HLM, le gouvernement qui veut mettre fin au HLM à vie. D'accord, pas d'accord. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.